Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La mauvaise prise en charge des démobilisés est susceptible de décourager d'autres personnes à quitter des groupes armés opérant en RDC. 267 démobilisés cantonnés sur un terrain broussailleux du centre d'entraînement des troupes aéroportées CETA dans la commune de Lancélé à Kinshasa se disent abandonnés à leur triste sort. En provenance de la base militaire de Kitona dans la province du Congo central, ils sont arrivés au camp CETA en novembre 2019 et attendent avec impatience leur réinsertion sociale qui tarde à se matérialiser. Issus des groupes armés de l'Est, ils sont installés dans des tentes non éclairées et dorment à même le sol sur des morceaux de carton faute de sacs de couchage. D'où la problématique de la prise en charge des démobilisés que Droit et Citoyenneté aborde aujourd'hui. Comment est assurée la prise en charge de ces démobilisés? Qui les cantonne et avec quelles promesses? Comment le programme d'ADR procède-t-il? Le magazine de promotion de vos droits et devoirs évoque cette problématique avec la voix des sans-voix pour les droits de l'homme, le mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, ainsi que le programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion d'ADR. Jeff Ngoyi Mulonda coordonne et présente ce magazine. Bienvenue à tous. À l'issue de ces enquêtes menées sur les démobilisés du camp CETA, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme est consternée par les conditions infrahumaines que traversent les démobilisés, comme relate ici un de ses enquêteurs, Timothée Dikwiza.
Environ 267 démobilisés qui sont arrivés ici à Kinshasa en provenance de Kitona depuis le mois de novembre 2019. Des échanges que nous avons eus, il s'est révélé que ces démobilisés ne sont pas pris en charge. Ils étaient tout d'abord à Kitona, environ 270, puisqu'ils se voyaient abandonnés à leur triste sort. Ils se sont presque révoltés et ils voulaient même descendre à Kinshasa à pied. On les a dissuadés et on les a pris de Kitona à Kinshasa pour les cantonner au camp CETA, où ils sont actuellement dans des conditions déplorables. Certains démobilisés se déplaçaient avec leurs dépendants, femmes et enfants, dont le nombre est évalué à peu près 11 femmes et 13 enfants. Des longs, surtout de l'eau, ils doivent payer par bidon de 20-25 litres de 100 francs congolais. Donc c'est extrêmement difficile.
Qui les a amenés là-bas?
C'est l'état-major, certainement c'est l'armée. Donc ce sont les autorités congolaises qui les ont déplacés ici.
Que propose la voie des sans-voix pour mettre fin aux conditions infrahumaines que traversent ces démobilisés?
Au niveau de la voie des sans-voix, nous avons attiré l'attention des gouvernants pour que, à leur niveau, ils puissent garantir un minimum de besoins vitaux par l'approvisionnement en vivres et en eau potable, ainsi que d'installations hygiéniques, sacs de couchage, des médicaments et des ressources financières des requises. Examiner avec lucidité la situation de ces 267 démobilisés cantonnés au camp militaire CETA. Faire le suivi effectif et l'accompagnement des démobilisés du camp CETA pour éviter que l'échec de leur réinsertion sociale et économique ne les incite en dernier recours à reprendre les armes. Assurer le retour dans la paix et la dignité humaine des démobilisés dans leur milieu d'origine avec leur kit de réinsertion sociale en bonne et difforme.
Droit et citoyenneté recevait un des enquêteurs de la Voix des Sans-Voix, défenseur des droits de l'homme, à la personne de Timothée Dikwiza.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs, Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et Citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Les démobilisés se composent de plusieurs groupes dont certains avec leurs dépendants sont venus des provinces de l'Ituri, Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu. Parmi eux se trouvent des personnes arrêtées ou assimilées aux combattants rebelles ou miliciens s'étant rendus au FRDC depuis 2012. Témoignage.
Nous sommes venus de Kitona. Nous avons fait 5 ans et demi à Kitona dans la base militaire de Kitona. Alors nous avons terminé toute la formation de démobilisation mandatée par des certificats et des démobilisations et des cadres de démobilisation. Jusque là, nous attendons notre départ, mais il n'y a pas de solution. Et le gouvernement est venu avec déjà des services nationaux pour nous prendre ou aller à Kanyamakassé. On ne sait pas où on doit à Kanyamakassé et quoi faire là, on ne sait pas. C'est pourquoi nous clamons chaque jour au président de la République de s'impliquer dans notre problème pour que nous trouvions une solution de rentrer chez nous. Nous sommes des civils, nous sommes des populations, comme tout le monde, comme tout Congolais. Nous avons droit de rejoindre nos familles.
Vous êtes séparés de vos familles depuis quand?
Nous sommes séparés de nos familles depuis 2014.
Et il n'y a pas de prise en charge. Comment les enfants étudient?
Non, les enfants n'iront pas à l'école, il n'y a pas de moyens. Même ceux qui sont restés au village, ils ne partent pas à l'école parce qu'il n'y a pas de moyens. Imaginez-vous 5 ans, sans la présence de leurs parents, est-ce qu'ils iront à l'école? Rien du tout.
Qui vous a amené là-bas, au camp CETA, et quelles promesses vous a-t-il faites?
On était en DDR. Quand nous sommes démobilisés, c'est DDR qui nous prenait en charge. Alors, quand DDR nous prenait en charge, on croyait que c'est DDR qui doit nous faire rentrer comme la MONUSCO qui était notre soutien. Parce que au départ, c'est la MONUSCO qui nous supportait. La MONUSCO qui nous fait venir de l'Est jusqu'ici à Kitona. Après Kitona, on est venu ici à Kinshasa. Il n'y a personne pour venir nous assister ou nous visiter. On est venu ici, même les autorités militaires, même les autorités de l'État. Il n'y a personne qui est venu nous visiter. Même la MONUSCO qui est censée à nous visiter, rien ne vient pas. C'est ça. Il y avait le général commandant ville de Kinshasa qui était venu, le général Massira. Il était venu nous voir ici pour la première fois. Il nous a dit que non, vous ferez 3 jours. Après ces 3 jours, on doit vous évacuer pour vous faire rentrer chez vous. Alors les 3 jours a passé, c'est alors que nous avons 3 mois ici. On ne mange plus, il n'y a pas de médicaments, nous avons des malades ici. Donc nous sommes mélangés avec des groupes armés qui étaient venus selon l'appel du chef de l'État Kabila. Quand il avait dit que non, il y a une démobilisation, les volontaires ont quitté la brousse pour venir se rendre. Ils se sont rendus au gouvernement. Alors on les a démobilisés. Alors ils ont le droit de rentrer chez eux.
Droits et citoyenneté aborde la problématique de la prise en charge des démobilisés. À présent, avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, Claude Ibalanki fait un état des lieux de ces mécanismes et explique son rôle à travers le DDR.
Comme c'est généralement connu, dans son nom complet, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et la région. Cet accord a été signé le 24 février 2013. Vous vous rappelez, pendant cette époque, l'est du pays était sévèrement menacé par les mouvements M23 et la ville de Goma était littéralement tombée. Alors, suite à l'instabilité persistante depuis des déjà 1996, la communauté internationale, la région ainsi que notre pays avaient décidé de regarder sur cette problématique de près pour essayer de trouver une solution. Alors dans cette recherche de la solution, toutes les parties donc, qui étaient donc ensemble, ces rencontres ont eu lieu à Addis Abeba en Éthiopie. Ils ont signé ce qu'on appelle aujourd'hui l'accord cadre. Donc l'accord cadre en son sein réunit la République démocratatique du Congo, tous nos 9 voisins, le Soudan. Vous vous rappelez que le Soudan avait été divisé après cela. Donc nous avons le Soudan du Sud comme voisin, mais aussi le Soudan, ou techniquement le Soudan du Nord qui fait partie de l'accord cadre. Vous avez le Kenya et vous avez l'Afrique du Sud. Donc ça fait 13 pays qui sont signataires de l'accord cadre. Mais ensuite, vous avez aussi les garants, ceux qui ont accompagné la signature et qui se sont portés garants de cet accord cadre. Vous avez la région, donc la CEGL, vous avez l'Union africaine, vous avez la SADC et vous avez l'Union européenne et bien sûr les Nations unies. Et après, nous avons ce que nous appelons les partenaires. Donc les partenaires de l'accord cadre, ce sont notamment ce qu'on appelle les groupes des pays 5, donc les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Ensuite, nous avons la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, et là ce sont tous les partenaires de l'accord cadre. Alors chaque partie a souscrit à des engagements. Donc la RDC a souscrit à ses engagements, l'ANA a souscrit à 7, la région a souscrit à 7 engagements également. également. Et puis, la communauté internationale a souscrit également à 5 engagements. Donc, chaque parti a souscrit à des engagements qu'il doit respecter, qu'il doit suivre et qu'il doit mettre en application. Et le but ultime, c'est de restaurer la paix, la stabilité et entamer les projets de développement, non seulement à l'est du Congo, mais dans tout le Congo, mais aussi dans la région des Grands Lacs. Alors, pour ce qui est des engagements souscrits par la RDC, pour exécuter ou pour mettre en application ces engagements, le mécanisme national de suivi a été créé, justement pour suivre tous ces engagements dont le pays a souscrit. Alors, le MNS dépend directement du président de la République, chef de l'État, à qui cette institution est placée sous son autorité. Alors, au niveau de la région, le président de la République a également désigné un haut représentant au sein de ce qu'on appelle le mécanisme régional de suivi. Donc, tous les partenaires au niveau régional et international se rencontrent dans cette plateforme qui est le mécanisme régional de suivi. Donc, le mécanisme national de suivi est dirigé par un coordonnateur, nommé par le chef de l'État par ordonnance, assisté d'un adjoint. Et à ce jour, il y a eu 3 coordonnateurs. Il y avait d'abord le coordonnateur François Mwamba, ensuite le général Denis Kaloumé et aujourd'hui votre serviteur Claude Balanqui. Et j'ai un double chapeau, donc coordonnateur du mécanisme national de suivi et haut représentant du chef de l'État au niveau du mécanisme régional de suivi.
Chaque parti a souscrit à certains engagements. Et pensez-vous que toutes ces parties respectent leurs engagements aujourd'hui, si on peut faire un bilan?
Oui, on ne peut pas parler de bilan sans isoler les partenaires, donc en commençant par la RDC. Je crois que sur les 7 ans passés, notre pays a largement respecté ses engagements. Donc avec la présence ou la mise en œuvre du mécanisme national de suivi, le Congo a fait sa part. Autant que possible, il y a encore du travail à faire. Parmi les plus grands succès au niveau national, il y a par exemple la déroute ou la mise en fin du M23, qui était les résultats directs de ce mécanisme. Il y a par exemple la mise en place au sein de la MONUSCO de la brigade d'intervention qui a combattu les M23 jusqu'à les mettre hors d'état de nuire. Sur le terrain, nous avons encore des groupes armés qui opèrent. Or, l'accord cadre était supposé éradiquer tous ces phénomènes. Donc aujourd'hui, nous avons pratiquement 133 groupes armés qui opèrent à l'est du Congo. De quoi nous sommes parmi les seuls pays au monde à compter autant de groupes armés. On a autant de groupes armés que nous avons des églises, des pharmacies, des marchés et tout le reste. Donc c'est un phénomène qu'il faut totalement éradiquer, mais très vite. Donc ça, c'est au niveau national. Au niveau de la région, il y a eu beaucoup d'efforts également. Depuis que nous sommes là, en 2019, nous avons essayé de remettre un peu les dynamiques, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional, suivant d'ailleurs la vision du chef de l'État, le président de la République. Comme vous savez, depuis son avènement, il a entrepris des visites à travers tous les voisins, sauf un à ce jour, donc le Soudan du Sud, mais il a visité tous les voisins, d'autres plusieurs fois, allant même jusqu'à 3, 4, 5 fois. Il a amené ce que nous appelons la diplomatie de proximité.
Ngoma ya Kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Claude Ibalanqui, vous êtes le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Vous avez parlé des 133 groupes armés qui équipent l'est de la RDC. Et on trouve parmi ces groupes des rebelles qui viennent des pays limitrophes et qui sèment la désolation dans l'est de la RDC, alors que dans leur pays d'origine règne la paix et la sécurité. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? C'est le non-respect des engagements.
Oui, bien, on ne peut pas dire que c'est le non-engagement des autres parties, parce que ces autres parties, je crois, bonne volonté, c'est pas eux qui créent ces groupes armés. Ces groupes armés, c'est vrai que d'abord faut comprendre les contextes. Donc à l'est du pays, parmi ces 133 groupes armés que nous avons répertoriés, il y a des groupes armés nationaux et il y a des groupes armés étrangers également. Parmi les groupes armés nationaux, vous avez ce qui est communément appelé les Mai Mai, on les trouve partout. Ça va des groupes de 5 personnes jusqu'aux plus organisés avec des munitions, des artilleries et autres. Et vous avez aussi les groupes armés qui opèrent au Congo, dont les plus vieux, par exemple, sont les ADF, MTM et autres. Donc, ces groupes armés, c'est vrai, étrangers, c'est vrai qu'ils ont été formés pour combattre les régimes de leur propre pays d'origine.
Mais c'est que tout chez nous, comment?
Oui, c'est ça. J'arrive à ces points.
Nos frontières sont poreuses.
Voilà, nous avons des frontières poreuses, mais nous avons eu beaucoup de problèmes, des manques de l'autorité de l'État. Quand l'État n'est pas présent, quand les frontières sont poreuses, comme elles ont été depuis plusieurs années, alors on a eu...
Mais à quand le renforcement de cette présence de l'autorité de l'État?
Voilà, ça c'est ça le grand problème. Alors on a eu tous ces groupes armés qui ont fleuri dans la partie est de notre pays, et si bien qu'ils se sont bien enracinés, ils se sont mélangés avec les communautés locales, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Nous parlons ici d'un problème qui date d'environ 25 ans. Donc il y a des enfants qui ont 25 ans, ou il y a des enfants qui ont 35 ans, qui ont vu la guerre depuis qu'ils ont 10 ans. Donc vous voyez, c'est toute une génération qui est emballée. Certains de ces enfants sont des Congolais, donc compatriotes, mais ils sont nés des parents étrangers qui constituent ces groupes armés. Donc ils se sont enracinés de cette manière-là, vraiment dans la société congolaise. Mais comme vous avez dit, le paradoxe, c'est que je pense qu'ils ont semblé oublier l'objectif même de leur propre création. En ce stade-là, à l'est de notre pays, ils s'intéressent beaucoup plus à nos richesses, au commerce illicite des minerais et autres, et ils ont peut-être oublié de faire la guerre contre leur pays. Et de temps en temps, ils inquiètent la population, ils font des massacres ici et là, ils font des vols, des meurtres et consorts, et pour justifier leur présence. Mais rassurez-vous, le chef de l'État est très déterminé à mettre fin à ça. Vous avez vu, depuis le mois d'octobre, l'armée n'a pas dormi, donc ça tire presque chaque jour. On a déraciné les ADF et maintenant c'est le tour des autres groupes, et d'ici là tout va s'arrêter. Le chef de l'État est déterminé, donc on utilise la politique du chef qui est les bâtons et la carotte. Donc d'un côté on frappe et de l'autre côté on offre la carotte à ceux qui veulent se rendre volontairement. Si vous permettez que j'ouvre une parenthèse, vous savez, le chef de l'État, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu cette année premier vice-président de l'Union africaine, et c'est lui qui prend les rênes l'année prochaine comme président du bureau de la conférence. Donc ça fait 53 ans que nous n'avons pas occupé, l'année prochaine ça fera 54 ans, donc la dernière fois c'était en 1967, que nous n'avons pas occupé ces rôles. Et cette année ici, l'objectif de l'Union africaine, c'est de...
Mais ce poste-là, c'est juste pour un prestige. Qu'est-ce que cela apporte à la RDC?
Non, ça apporte beaucoup. D'abord, avant que j'y arrive, l'Union africaine cette année a dit c'est l'année de taire les armes. Alors, notre chef de l'État étant le premier vice-président, donc c'est un objectif qu'il va porter personnellement au niveau du pays et qui va continuer jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle total de l'Union africaine l'année prochaine. Alors, ce que ça nous apporte, ben ça nous apporte beaucoup. À part le prestige, c'est pas donné à tout le monde de diriger l'Union africaine. Comme vous savez, pour notre cas, la dernière fois c'était en 1967. Donc ça, c'était avant que vous et moi sûrement nous soyons nés.
Là, le Zaïre était plus fort qu'aujourd'hui le Congo, qui est devenu très faible.
Oui, mais justement, donc si on nous porte là, c'est-à-dire on reconnaît notre nouvelle force. C'est-à-dire aujourd'hui le Congo est rentré en force. Sinon, on ne nous aurait pas donné ça. Donc là, vous confirmez justement que nous sommes de nouveau forts. Et c'est là, depuis l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, donc le Congo est rentré sur la scène politique et diplomatique internationale. On nous respecte à nouveau. On reconnaît de nouveau notre rôle de leadership, que ce soit dans la sous-région ou à travers le continent. Donc, c'est une restauration, en fait.
Vous êtes là pour assurer le suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, pour restaurer la paix et la sécurité dans l'Est, la RDC, non seulement l'Est, mais toute l'étendue nationale. Il y a 267 démobilisés qui se disent abandonnés à leur triste sort au camp CETA, ici à Kinshasa. Il n'y a pas de prise en charge, alors qu'on les a amenés pour une réinsertion. D'autres disent même qu'ils ne veulent plus réintégrer l'armée, ils veulent réintégrer la vie sociale. Quel est le rôle du mécanisme national de suivi à ces niveaux?
Merci, Monsieur Ngoy. Je crois que le rôle du mécanisme, comme vous le savez, c'est accompagnement, suivi et supervision. Donc, pour ces cas spécifiques, c'est vrai que nous avons regardé à ça et nous allons continuer à jeter un œil dessus. Mais il y a eu quand même, je dois avouer, beaucoup d'anomalies. Les 267 personnes dont vous faites allusion n'ont pas été démobilisées hier. Ils ont été démobilisés depuis quand même beaucoup de mois, si pas des années. Normalement, les processus de démobilisation, ou communément, ou généralement connu comme les programmes DDR, c'est un programme qui est spontané, qui ne doit pas aller pendant longtemps. On peut pas démobiliser les gens pendant 2 ans, 3 ans. C'est des programmes bien spécifiques qui sont prises en charge soit par le gouvernement à travers la armée ou les différents programmes DDR qui existent, ou soit avec l'appui des partenaires extérieurs, notamment la MONUSCO et d'autres partenaires. Alors, dans ces cas spécifiques, je crois qu'il y a un problème de prise en charge. Nous allons nous atteler spécifiquement sur ces problèmes pour voir un peu où est-ce que ça a décalé, parce que dès que vous avez un programme qui dure pendant une année, deux ans, ce sont des programmes qui coûtent généralement très cher, parce que vous avez les ex-combattants, vous avez leurs dépendants, c'est-à-dire leurs épouses, leurs enfants, leurs époux ou épouses, leurs enfants, peut-être même la famille proche qui les accompagne au moment où ils ont été démobilisés. Donc, ce sont des programmes qui coûtent cher, mais qui doivent être spontanés et limités dans les temps. Alors, dès que ça déborde, on a des problèmes comme ça, où on ne sait plus prendre en charge les démobilisés parce que il n'y a personne qui porte les coups. Les partenaires peut-être sont fatigués, le gouvernement n'a pas mis les moyens à disposition ou tous les restes. Donc c'est un problème que nous allons voir. Il faudra les remettre dans ces programmes. Alors je dois aussi mentionner ici que le chef de l'État a clairement instruit que nous puissions revoir tous les différents programmes DDR qui existent. Comme vous le savez sûrement, il y a à peu près 3 ou 4 différents programmes DDR, si pas plus, qui existent. Vous avez les programmes DDR au niveau des renseignements militaires, vous avez les programmes DDR au niveau des ministères de la Défense, avec les programmes UEPPDDN, DDR, vous avez les programmes DDR au niveau du ministère du Plan, vous avez les programmes DDR au niveau même des provinces, vous avez vu les différentes provinces se mettre ensemble pour créer leur propre programme DDR. Donc cette multiplicité des programmes DDR fait que parfois, on ne sait pas où se trouve la responsabilité au moment où il faut. Donc le chef de l'État a instruit et nous avons suivi aussi dans la dernière résolution des Nations Unies, où ils ont du Conseil de sécurité des Nations Unies, où ils ont clairement recommandé au gouvernement congolais de nommer même un coordonnateur principal pour les programmes DDR. Donc tous les dossiers sont en train d'être revus au niveau technique et puis les recommandations seront soumises au chef de l'État, au président de la République, pour qu'il puisse prendre la décision ou les décisions qu'il faut pour consolider les différents programmes DDR. Et dès que cela sera fait, je crois que nous n'aurons plus ces problèmes où il y a des démobilisés qui sont abandonnés ou qui ne savent plus qu'est-ce qui va arriver demain et ça peut envoyer les enfants à l'école et tout le reste.
Qu'est-ce qu'on fait des démobilisés de l'Est là? Il y a des gens qui sont cantonnés, des gens qui se sont rendus volontairement. Quand quelqu'un se rend volontairement au FARDC, n'est-ce pas là un résultat qu'il faut capitaliser pour qu'ils ne puissent plus reprendre les armes? Mais dès qu'ils sont oubliés, ils reviennent encore dans la forêt, ils reprennent les armes.
Oui, vous avez raison, mais c'est la même chose comme ceux qui sont au Canceta et oui. Autres. C'est la même chose, surtout à l'Est où nous avons lancé un appel pour que les groupes armés puissent se rendre volontairement. Et nous remercions d'ailleurs ceux qui se sont rendus volontairement. Nous avons enregistré beaucoup, des milliers de personnes littéralement. Maintenant, comme j'ai dit plus haut, c'est question de coordonner les programmes. Nous espérons que dès qu'il y aura un coordonnateur principal pour les programmes DDR, tous ces problèmes vont disparaître. Donc, il est question ici...
Non, la multiplicité des programmes DDR est à la base aussi.
Non, il faut l'avouer parce que les ressources qui sont limitées sont éparpillées à travers différents programmes, alors que si on peut tous consolider, il y aura assez de moyens, il y aura un seul programme. Donc ça, c'est un problème, on ne se cache pas. C'est même dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et le chef de l'État lui-même, d'ailleurs, en a parlé et c'est de là où le Conseil de sécurité a puisé sa matière. Au mois de septembre dernier aux Nations Unies, le chef de l'État a parlé de ces problèmes-là anticipativement lui-même dans son discours, dans plusieurs de ses discours aux Nations Unies, il a fait référence à ça. Alors, mais de manière pratique, il y a aussi un problème. La plupart des partenaires qui travaillent avec notre pays dans ces programmes DDR souhaitent que les gouvernements fassent sa part avant qu'ils interviennent. Donc, par exemple, quand les démobilisés sortent, la première étape, c'est un pré-cantonnement. Normalement, le pré-cantonnement doit être pris en charge par les gouvernements. Mais ensuite, quand on va au cantonnement proprement dit et puis à la démobilisation et désarmement, à ce moment-là, ils peuvent intervenir avec des moyens financiers et logistiques. Les cas d'espèce, c'est par exemple les cas de la FRPI en Ituri. C'est un processus qui va maintenant avancer, qui peut aller jusqu'au bout. Mais c'est un modèle, c'est un exemple qui va être répliqué sur les restes des territoires, là où nous avons des combattants qui se sont démobilisés. Donc il faut les pré-cantonner d'abord, à charge du gouvernement. Ensuite, on va inviter les partenaires internationaux, extérieurs et autres, qui vont venir pour nous accompagner et amener ce processus jusqu'au bout.
Et réintégrer ou intégrer dans l'armée les anciens rebelles, les anciens combattants, ceux qui ont causé la désolation aux populations dans l'Est de la RDC, n'est-ce pas là une sorte de prime que vous leur faites?
Oui, d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas une loi ou une décision qui dit que tous les ex-combattants vont être réintégrés dans l'armée. Ça n'existe pas. Tout s'est fait au cas par cas. C'est vrai que l'armée a besoin des compétences, des personnes. C'est comme ça, c'est l'armée qui fait ces processus de DDR parce qu'eux, ils savent qui peut réintégrer l'armée et qui ne peut pas réintégrer l'armée et qui a des problèmes de justice, qui doit faire face aux crimes qu'ils ont commis et qui est techniquement propre pour réintégrer intégrer l'armée et qui peut aller aussi dans la société. Et ensuite, même ceux qui vont dans l'armée, qui sont réintégrés dans l'armée ou intégrés dans l'armée, il y a aussi beaucoup de processus qui entrent en cours. Par exemple, la reconnaissance des grades. Dans la rébellion, tout le monde est nommé général et tout le reste. Mais un général de la rébellion n'est pas nécessairement un général de l'armée nationale, des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc il y a aussi ces processus où on voit qui va aller dans l'armée. Mais ensuite, quand ces personnes sont sélectionnées, on voit aussi à quel grade ils vont aller. Donc, il n'y a pas d'automatisme ici.
Après Claude Ibalanki du MNS, nous recevons le chef du DDR, Monisco Agoma. Louis Baradieng nous explique le processus DDR et le rôle à jouer par la Monisco.
Oui, merci. Comme vous le savez, il y a des initiatives au niveau provincial présentement. Vous avez vu récemment l'expérience de l'Itouroui avec l'accord qui a été signé. Mais avant cela, il y a la commission interprovinciale pour le Nord et le Sud Kivu qui a tenu aussi sa réunion de comité de pilotage le 12 février dernier. Ça, en fait, ça montre que actuellement l'approche DDR, c'est une approche communautaire que les provinces essaient de faire avancer. Et nous, au niveau de la Monisco, on apporte notre soutien à ces initiatives communautaires. Donc, présentement, nous nous attelons à accompagner encore le gouvernement au niveau de Ituri. En même temps, nous travaillons avec la commission interprovinciale pour le Nord et le Sud Kivu.
Il y a un fait qui est dénoncé, la multiplicité des programmes DDR. Comment consolider toutes ces initiatives des programmes DDR?
Oui, c'est dommage s'il y a cette multiplicité, en fait. Il faudrait plus de coordination. Aujourd'hui, de toute façon, au niveau des Nord Kivu, il y a en fait une synergie des forces en fait pour arriver à ce qu'on est en train de construire. Maintenant, moi j'appelle tout le monde en fait qui est sur le terrain en train de sensibiliser pour que les groupes armés sortent de la brousse, ce qui est bien, mais il faudrait en fait que tout cela soit coordonné dans un cadre beaucoup plus formel pour qu'on puisse arriver à avoir le même message et à avoir aussi un même processus et un même traitement pour les ex-combattants qui sortent.
En termes de bilan aujourd'hui, combien de a-t-on déjà réinséré?
Bon, je ne saurais vous donner des statistiques, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a eu beaucoup de réussites et le Congo est devenu un espace où on peut apprendre beaucoup de choses en termes d'expérience DDR. Il y a eu des expériences depuis les années 2004, 2006, etc., 2008 et jusqu'à récemment avec le PNDD3. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de jeunes actuellement qu'on voit également dans les quartiers ou bien dans les communautés qui ont tourné la page carrément du groupe armé. Mais comme vous le savez, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va éradiquer totalement ces groupes armés. Les efforts continuent, il y a des leçons du passé qui sont apprises, il y a des bonnes pratiques que nous continuons également d'utiliser.
Qu'est-ce qui vient après le cantonnement? Il y a 267 démobilisés qui sont cantonnés au camp CETA ici à Kinshasa, qui se disent abandonnés. Est-ce que vous en savez quelque chose?
Bon, je ne sais pas abandonné par qui, mais ce que je peux vous dire, c'est que les ex-combattants qui se rendent dans un processus dans lequel nous, en tant que Monisco, nous sommes impliqués. Nous suivons, en fait, toutes les étapes à partir de la sensibilisation, de la reddition de ces ex-combattants jusqu'à leur démobilisation et leur réinsertion. Voilà. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre dans le cadre de la réintégration, c'est sur le long terme, en fait. La Monisco étant une mission de maintien de la paix avec un mandat limité dans le temps, nous essayons d'accompagner tout ce processus à la limite de nos moyens. Mais en même temps, étant donné que c'est le gouvernement qui a le lead, donc moi je suis rassuré que les ex-combattants qui suivent le processus normal seront accompagnés dans le retour à la vie civile.
Mais les démobilisés qui sont cantonnés au camp CETA, ils disent que la Monusco leur a promis un suivi régulier, mais depuis lors, il n'y a personne qui passe là-bas pour suivre de près leur situation.
Bon, je ne sais pas pourquoi ils mettent la Monusco dans ça, mais bon, nous allons étudier cette question de près. Moi, je ne peux pas vous dire, en fait, dans quelles conditions ces gens sont arrivés là-bas. Voilà.
Quelles recommandations pour faire réussir le DDR? Louis Baradieng.
Alors, la recommandation que je pourrais formuler, c'est que, en fait, il faudrait que tous ceux qui peuvent y apporter une bonne contribution participent aux efforts en cours, mais de façon coordonnée, encore une fois. J'ai dit tout à l'heure que l'approche, surtout qui a été expliquée au Sud Kivu par les deux gouverneurs, c'est l'approche communautaire. Ça veut dire que les leaders communautaires, tout le monde, doit vraiment s'y mettre pour convaincre ces groupes armés à sortir de l'Ebrousse et de retourner dans la vie civile, voilà, pour un futur meilleur. Donc ça, c'est un appel que je leur lance et je demande encore une fois à tous ceux qui peuvent apporter une contribution positive de le faire, mais de façon coordonnée. Voilà.
Ainsi s'achève Droit et citoyenneté d'aujourd'hui sur la problématique de la prise en charge des démobilisés. Vous avez été nombreux à nous suivre. Cette émission est à présent terminée. Merci de votre aimable attention.